Bonjour à tout le monde. On reprend donc cette question d'utiliser donc ces fameux matériaux poreux à charpente hybride que les Américains, les Anglais, les Anglo-Saxons appellent donc MOF, Metal Organic Frameworks. Et ce que j'ai essayé dans un premier cours donc de vous montrer, c'est finalement l'intérêt de ces matériaux pour l'hétérogénéisation de complexes moléculaires. Jusqu'à présent, parce que dans le dernier cours, la semaine prochaine, j'essaierai de montrer comment ces matériaux peuvent être utilisés dans des dispositifs électrochimiques, alors que jusqu'à présent et encore aujourd'hui, pour des raisons à la fois de simplicité, pour des raisons aussi d'intérêt à coupler de l'énergie solaire à de la catalyse portée par ces matériaux, mais aussi et surtout parce que y a un gros problème avec ces matériaux, c'est qu'ils ne sont pas conducteurs. Donc, on a évoqué tout un tas de configurations possibles. Je vais aller vite, puisqu'on en a parlé la dernière fois. C'est une science qui est très récente, hein, puisque c'est à peu près les années 2009-2010 que ça démarre. Mais vous voyez que, bien sûr, toutes ces configurations où on a des éléments catalytiques, photosensibilisateurs, fixés de façon covalente aux matériaux, on a des espèces qui, potentiellement, sont plus stables, parce que ces éléments sont accrochés de façon covalente. En même temps, comme je l'ai dit, ça implique des synthèses, disons, un peu plus difficiles. Ça implique aussi des modifications du catalyseur ou du photosensibilisateur, des modifications structurales, électronique qui fait que ce que vous avez accroché à la fin au substrat solide n'est pas la même chose que votre catalyseur ou votre photosensibilisateur initialement étudié. Donc ça pose un problème malgré tout. Et donc, comme vous le verrez, les récents développements, ils portent sur une autre caractéristique de ces matériaux, c'est qu'ils sont poreux, avec des pores contrôlables, et que donc il y a la possibilité d'encapsuler d'une certaine façon les éléments, ça peut être le catalyseur, ça peut être le photosensibilisateur, ou ça peut être les deux. Et ça, ça a un avantage, c'est évidemment, vous l'avez compris à partir de ce que je viens de dire il y a deux minutes, c'est qu'on ne touche pas au catalyseur qu'on a élaboré, qu'on a étudié pendant des années avant de l'hétérogénéiser. C'est effectivement le même qui est à l'intérieur. Bon, on verra aussi qu'il y a des inconvénients. Alors ça, ces approches-là, je vais en parler un peu en détail parce que ce sont des approches qu'on a développées au laboratoire récemment. Donc je reviens à ce cas simple pour quelques derniers exemples. Donc, en effet, ces matériaux poreux permettent la fixation covalente de votre catalyseur, donc vous transformez un catalyseur moléculaire soluble, pas solide, en un catalyseur solide par le biais de cette fixation-là. Et évidemment, vous étudiez ces propriétés catalytiques dans un contexte photochimique, donc il vous faut un photosensibilisateur et il vous faut un réactif sacrificiel. Ça peut être un donneur d'électrons si on fait de la réduction ou un accepteur d'électrons si on fait une réaction d'oxydation. Voilà. Alors, j'ai déjà évoqué ça et je termine là-dessus. Il y a eu un énorme développement sur, vous voyez, ce ligand bipyridine, carboxylate, donc les carboxylates font les liens entre les clusters. Vous voyez, là vous avez un ligand qui assure donc la construction du MOF, du du matériau hybride, une partie organique, une partie inorganique, ici, qui est le cluster de zirconium. Et, je l'ai déjà dit, mais vous pouvez remplacer ces ligands-là par des ligands bipyridines, et comme il y a énormément de catalyseurs qui sont à base de ces ligands diimine, vous comprenez bien que vous pouvez rajouter des linkers qui sont fonctionnalisés par ça et donc qui ont la capacité de fixer un métal. Ici, c'est un complexe assez connu de la réduction du CO2. C'est un complexe de ruthénium terpyridine, BP, CO. Voilà, donc synthèse du MOF dans un premier temps, vous voyez, et ensuite échange. J'ai déjà évoqué que c'est une possibilité de synthèse, échange d'un linker par le complexe lui-même. Vous voyez, parfois, le métal est introduit après, dans une dernière étape, ici, l'ensemble est introduit dans le MOF. Et là, vous avez donc un nouveau matériau avec une entité catalytique, et donc à nouveau classique, mais je ne rentre pas dans le détail. Voilà, ce sont des solvants classiques, et puis un photosensibilisateur, on travaille en lumière visible, et là on a un matériau qui est quand même assez intéressant en termes d'efficacité. Bon, souvent dans ce cas-là, on a un mélange de monoxyde de carbone, d'acide formique et d'hydrogène. Vous voyez, ce sont des travaux récents, publiés dans des très bons journaux. Ce que montre ce travail, par ailleurs, bon, ici vous avez le complexe non accroché, c'est ce que vous voyez en 1 ici, et le 3, c'est le complexe accroché au solide. Et ce que vous voyez, et c'est assez intéressant, c'est que alors que lorsque vous êtes saturé en CO2, vous avez des activités comparables entre les deux, eh bien, lorsque vous avez très peu de CO2, ça c'est quelque chose qui est pour le moment pas très efficace, que les gens recherchent énormément. Vous imaginez bien que si on pouvait transformer le CO2 qui est en très petite quantité dans l'atmosphère, hein, les fameux 400 ppm de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, sans avoir à l'attraper, le concentrer, etc., ça serait formidable. Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent à développer des catalyseurs qui ont la capacité juste de travailler avec l'air. Alors, ici, c'est évidemment CO2-argon, parce que l'oxygène est évidemment réductible, mais, comme on peut le voir, il y a une plus grande activité du matériau solide comparé au matériau moléculaire. Et ça, bon, l'hypothèse, c'est que les pores du solide ont aussi cette capacité d'absorber du CO2. Ça, c'est connu depuis pas mal de temps. Alors, un ligand assez, comment dire, fameux, très développé, il n'y en a pas 50, hein. Il y en a quelques-uns, c'est ce complexe. Manganèse, BP, CO. Trois fois. Complexe, donc organométallique. Il a été, je l'ai déjà montré, mais il a été développé par un laboratoire français, Alain de Ronzier et à Grenoble. Et il a été développé ensuite par plein d'autres labos, dans différents contextes, y compris chez nous. Et c'est un catalyseur assez sélectif de la transformation du CO2 en monoxyde de carbone. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres schémas de mécanismes que celui-là, et pourtant celui-là est faux. Mais bon, c'est pour vous montrer, je vais vous dire pourquoi il est faux, mais c'est un détail. Mais c'est, pourtant, vous voyez, c'est dans Gevant et Chemistry, mais c'est comme ça. Donc, ce complexe, donc c'est une réduction à deux électrons, hein, CO2, CO. Ce complexe est réduit à deux électrons, bien sûr. Et l'hypothèse, même si... Enfin, c'est maintenant quelque chose qui est admis, mais pourtant, ce n'est pas très bien établi, de mon point de vue. Il y a quelques analyses spectroscopiques, mais l'hypothèse, c'est qu'à partir de cette réduction à deux électrons, donc vous voyez ici un 2, donc un électron chacun, vous faites un dimère Et l'hypothèse, c'est que c'est ce dimère qui est responsable de la réduction du CO2. Bon, ici, c'est faux parce que vous voyez, avec deux électrons, vous pouvez réduire une molécule de CO2 en CO, mais vous ne pouvez pas en réduire deux. Bon, c'est une erreur des auteurs, mais voilà. Donc, il n'y a qu'un seul CO2 qui est transformé. Donc, vous avez bien cet intermédiaire-là, plus un autre complexe de manganèse 2, mais qui ne contient pas ce COH. Mais néanmoins, l'hypothèse, c'est que l'espèce active, c'est un complexe dimère. Alors, évidemment, à nouveau avec la stratégie ligand-péridine dans un MOF et avec la volonté à nouveau d'hétérogénéiser ce catalyseur qui est intéressant pour en faire un catalyseur encore plus utile sous forme solide, eh bien, il y a certains auteurs qui ont en effet à nouveau profité de cette possibilité. Et c'est toujours la même chose, hein, c'est l'UIO avec le cluster de zirconium ici, les mêmes ligands et puis bipyridine. Et vous voyez ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il est impossible d'introduire le complexe directement parce que le complexe ne supporte pas les conditions expérimentales. Alors on fait d'abord la synthèse avec des ligands bipyridine et ensuite, dans une deuxième étape, on introduit le complexe de manganèse. Et là, c'est intéressant parce que, évidemment, vous imaginez bien, et c'est un des aspects de l'hétérogénéisation, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, le fait de fixer un complexe sur une surface, en particulier, ça empêche des réactions de décomposition du catalyseur à travers des réactions bimoléculaires d'un catalyseur avec l'autre qui dégrade le catalyseur. Donc ici, les sites sont isolés et donc on pense qu'il n'y a pas de possibilité de réaction de dimérisation. Donc ça doit changer les mécanismes et peut-être les sélectivités. Et en effet, ce système-là ne produit pas de CO. C'est un changement drastique. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on hétérogénéise. Évidemment, on peut changer totalement la sélectivité. Donc si on a élaboré un catalyseur parce qu'on veut absolument faire du CO et qu'ensuite on l'hétérogénise parce qu'on trouve que c'est fantastique d'hétérogénéiser, on a un catalyseur solide extrêmement intéressant, bon, évidemment, on passe à côté de l'affaire si tout d'un coup il n'y a plus de CO, et c'est le cas ici. On change complètement la sélectivité. Donc il faut tenir compte de ça. Et en effet, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ce catalyseur solide en présence de ce photosensibilisateur et en présence de ce donneur d'électrons, hein, bon, c'est une molécule qui est assez utilisée dans ces systèmes-là. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez, c'est un analogue du NADH ou du NADPH, qui est une molécule que vous connaissez dans le monde biologique. C'est un des grands réducteurs des cellules vivantes. Avec ce donneur d'hydrure ici. Bon. Donc, on voit bien ici que le meilleur catalyseur, en faisant tous les blancs, les comparaisons avec les complexes seuls, enfin, etc., c'est le catalyseur solide. Mais il ne donne que de l'acide formique. Bon, par contre, il n'est pas d'une très grande stabilité, puisque quand on fait du recyclage, à chaque étape, si tous les 4 heures on le recycle, on perd de l'activité. Donc, hétérogénéiser, ça ne veut pas dire obligatoirement de gagner. Et alors, évidemment, les choses s'expliquent. Hein. On savait déjà que dans des conditions photochimiques, on pouvait obtenir plutôt de l'acide formique que du monoxyde de carbone. Notez que ces deux produits sont deux produits possibles de réduction du CO2 à deux électrons. Mais disons qu'il avait été établi notamment en 2014, je crois par Ishitani, un grand photochimiste du CO2, lorsque vous réduisez le complexe de manganèse, vous faites en effet le complexe dimère, mais par photochimie, puisqu'on est dans des conditions de photochimie, ça casse la liaison manganèse-manganèse, donc on a plutôt des espèces monomoléculaires qui pourraient expliquer la production d'acide formique. Et de fait, dans ce travail-là, on est non seulement dans des conditions photochimiques, c'est-à-dire que si jamais il se formait ce dimère, on le casserait et ça serait un monomère, mais en plus, il y a peu de chances que ce mécanisme s'applique puisque ici, les complexes de manganèse sont isolés et ne peuvent pas faire de la dimérisation. Donc, c'est comme ça que les gens expliquent donc la formation d'acide formique dans ce cas-là. Pas de dimérisation. Et à nouveau, j'insiste sur le fait qu'on peut avoir de très grands changements de sélectivité à partir du moment où on hétérogénise un catalyseur. Donc, cette idée d'hétérogénéiser un catalyseur peut conduire à des choses extrêmement différentes de ce que vous avez anticipé à partir du catalyseur soluble. J'ai parlé du CO2 là pendant ces quelques minutes. Je reviens toujours avec ce schéma de fixation d'un catalyseur homogène sur des modèles d'hydrogénase. Alors, les hydrogénases, hein, je les ai montrées au premier cours et je les ai montrées X fois dans des cours précédents. Ce sont des enzymes qui catalysent la réduction des protons, enfin l'interconversion proton-hydrogène et qui ont la caractéristique d'avoir un site actif avec un binucléaire de fer et des ligands CO et cyanure. Et donc, tout un tas de gens ont fait des complexes modèles mimant le site actif. Et ici, vous en avez un. C'est un site actif, c'est un complexe moléculaire qui a été synthétisé donc, par ce groupe. Je pense que c'est Sacha Haute en Suède. C'est un complexe binucléaire avec des ponts soufre. Et vous voyez, à nouveau, la stratégie classique, si on veut hétérogénéiser ces complexes, c'est d'introduire des groupements carboxylates qui vont faire le lien, à nouveau, entre les différents clusters de zirconium dans un MOF UIO. Donc, à nouveau, vous voyez, le MOF est ici, et certaines branches contiennent cette partie-là, c'est-à-dire un acide téréphtalique, mais modifié avec deux atomes de soufre ici, ce qui permet d'accrocher le binucléaire de fer. De sorte qu'on se retrouve ici avec un MOF, un matériau poreux, charpente organique ici, organométallique ici, et les nœuds à nouveau des clusters de zirconium. Et voilà, vous avez à nouveau ici une figure de ça. Et donc, ces catalyseurs hétérogénéisés sont plus actifs que le catalyseur moléculaire dans une réaction de photoréduction des protons en hydrogène, et en particulier dans l'eau. Ça, c'est aussi un autre aspect que j'ai évoqué. Quand vous hétérogénisez un complexe qui est soluble en milieu organique, vous pouvez travailler en milieu aqueux. Un peu plus tard, on complique un peu le système maintenant en fixant les deux. Donc jusqu'à présent, vous avez vu le photosensibilisateur, il est en dehors. Ici, on fixe les deux partenaires, le photosensibilisateur et le complexe. Et de fait, on se retrouve à ce moment-là vraiment dans une configuration qui ressemble au système biologique où on a vraiment un photosystème. On a une poudre qui a toutes les activités. Donc, si on a un donneur d'électrons, le photosensibilisateur qui capte les photons, et on peut faire de la séparation de charge, transférer des électrons pour soit réduire des protons au niveau du catalyseur, soit réduire du CO2. Et c'est bien ce qui se passe. Ici, c'est l'ensemble du photosystème. Dans la partie, ici, photosystème 1, vous avez des électrons qui arrivent, c'est l'équivalent du TOA, et un photosensibilisateur, ici c'est PS1, photosystème 1, un photosensibilisateur qui énergise les électrons qui sont à potentiel pas suffisant pour réduire et qui peuvent aller sur un catalyseur ici qui est l'hydrogénase, donc ça c'est l'équivalent du ML, qui peut catalyser la réduction de protons en hydrogène. Mais vous pouvez aussi considérer l'autre partie, la partie PS2. Ici, c'est de l'eau qui est oxydée par les trous créés par l'absorption d'un photon sur PS2. Ça oxyde l'eau en oxygène et les électrons sont évacués vers un accepteur d'électrons qui est en fait ici. Donc vous pouvez faire aussi avec ce type de matériau la réaction d'oxydation. Donc ici, il faut un accepteur d'électrons. Le S2O8-2- est un oxydant classique, peroxodisulfate, et c'est l'équivalent des trous de PS1. Ici, les trous de PS1, par excitation d'un électron, sont les accepteurs d'électrons comme S2O8. Et donc, vous pouvez faire de l'oxydation de l'eau. Le ML, ici, a les propriétés du catalyseur qu'il y a dans PS2, manganèse, calcium, et le photosensibilisateur, évidemment, c'est PS2. Donc, vous voyez, on s'approche d'une configuration où, et en plus, c'est solide, donc avec une applicabilité intéressante. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine? Pas grand-chose, mais un petit peu. Et vous voyez, je démarre ça en 2015, hein, c'est pas si vieux. Vous vous souvenez sûrement pas, mais j'ai déjà parlé d'un MOF qui avait ceci. Et cette entité-là confère au MOF une propriété d'absorption supplémentaire. Vous voyez, ça, c'est le MOF, et ça, c'est le matériau avec cette entité-là de ruthénium. Et donc, j'avais montré que ce matériau-là, RuCO2, était un photocatalyseur. Il avait à la fois les propriétés de photo et de catalyse. Donc, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est de sensibiliser encore un peu plus le matériau en ajoutant du ruthénium BP sur des sites bipyridines qui n'étaient pas occupés par le ruthénium ici, parce qu'il n'y a pas 100% d'occupation des bipyridines dans ce matériau. Et donc vous avez un mélange ici, ce qui s'appelle sensitized MOF, où vous avez à la fois des entités RU et des entités RU, BP, 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 tris-BP, mais accrochées au catalyseur. Et en accrochant ce photosensibilisateur, vous voyez que vous gagnez encore plus dans le domaine visible d'absorption. Donc vous avez vraiment un photosystème qui absorbe dans le visible, qui utilise donc essentiellement le ruthénium tris-BP, l'entité accrochée au solide, pour être le photosensibilisateur, qui absorbe beaucoup plus que cette entité-là, et cette entité-là qui est un très bon catalyseur pour la réduction du CO2, essentiellement en acide formique. Donc là aussi, vous changez pas mal les sélectivités. Mais bon, vous voyez, enfin, si vous comparez les chiffres ici, ce matériau sensibilisé des efficacités. Vous voyez, si vous regardez le total des cycles catalytiques pour la production de l'acide formique, du CO et de l'hydrogène, bien supérieur au MOF sans la sensibilisation par RuBP, et évidemment bien meilleur que le complexe tout seul. Non fixé au solide. Voilà. Bon, les gens ont travaillé sur des effets d'excès du photosensibilisateur. Il en faut, mais pas trop. Donc il y a une position relative intermédiaire. Si vous en mettez trop, vous bloquez les pores et vous empêchez l'accès des réactifs, notamment le donneur d'électrons. Bon, voilà, pas très important, mais c'est le type d'étude qu'il faut faire. Bon, donc, vous voyez, on peut arriver à ce type de matériaux. Ça, c'est un autre exemple. Jusqu'à présent, vous voyez que ces exemples, quand je dis vers un photosystème, sont des exemples, premier exemple, uniquement du ruthénium. Ici, je vous parle d'un exemple ruthénium-platine. Donc, assez souvent, cette science-là commence avec des matériaux nobles, enfin des métaux nobles, parce que c'est plus facile, parce qu'on sait que ça marche, etc. Et ici, vous voyez à nouveau la démarche de construction d'un MOF à partir d'une BP platine, d'une BP ruthénium avec d'autres BP. Donc vous reconnaissez le photosensibilisateur et lui, il est connu pour faire de la catalyse. Et donc vous avez à nouveau un MOF, un matériau solide avec des branches purement organiques, des branches avec du platine, ici, et des branches avec du ruthénium. Voilà, donc ici, c'est simplement à nouveau pour montrer que lorsqu'on passe à des matériaux solides, il faut déployer toute une gamme de méthodes d'analyse classiques de la chimie du solide, hein, rayons X, infrarouges, BET, EDX, microscopie diverse, XPS, UV visible, enfin tout ça pour démontrer que, en effet, vous avez des solides qui contiennent du ruthénium, du platine. C'est ce qu'on voit aussi par de l'analyse élémentaire, de l'imagerie de l'analyse élémentaire, avec une répartition homogène du zirconium, qui est la preuve qu'on a bien le MOF, du platine, qui montre bien qu'on a intégré du platine, et du ruthénium. Donc tout ça est assez clair. Ces modifications ont très gros impact sur les absorptions. Hein, vous voyez, à nouveau, le MOF, il absorbe pas dans le visible. Donc c'est ça qui nous intéresse, hein, puisqu'à la fin, c'est quand même de l'énergie solaire qu'on veut appliquer. Si vous mettez du platine, vous voyez que ça commence à attaquer un peu dans la partie visible. Et d'ailleurs, j'avais montré que ce composé-là est un photocatalyseur lui-même. Il n'y a pas besoin de lui rajouter des photosensibilisateurs. Vous l'éclairez, il attrape la lumière et en même temps, il est catalyseur. Mais c'est encore mieux si vous rajoutez la partie ruthénium. À nouveau, ça, ce n'est pas étonnant, mais ça a été fait pour ça. Mais vous gagnez énormément en absorption dans la lumière visible. Et de fait, voilà. Tout est là pour attraper de la lumière visible, des photons solaires, d'exciter donc ce photosensibilisateur et d'envoyer des électrons vers le catalyseur de platine. Et vous voyez de la photoréduction du proton en hydrogène. Voilà, donc le système est... voilà, dure un peu plus longtemps, plus stable. C'est pas un système fantastique, hein. Vous voyez ici un cycle catalytique. Vous voyez d'ailleurs quand les gens ont peu de cycles catalytiques, ce qui est assez, enfin c'est assez minable, hein, ça. Alors ils présentent les activités en mol, comme ça, et en cachant un petit peu les quantités de... Donc c'est assez difficile de faire ces calculs-là. Mais disons que, voilà, en tout cas, vous voyez, en 2015, c'est le genre de travaux qui montrent qu'on peut ainsi faire un photosystème. Un autre exemple, et là, vous voyez, c'est une démarche qui va un peu plus loin en disant « je ne veux pas de métaux nobles, donc... » je m'intéresse à des systèmes où je vais plutôt utiliser des photosensibilisateurs à base de porphyrine de zinc, par exemple, et pas de ruthénium BP. Donc ici, construction d'un MOF avec des liens, hein, que vous voyez ici, ce sont des porphyrines de zinc. Et comme vous avez un atome de zinc ici, les mêmes auteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure qui travaillent sur ces binucléaires de fer qui sont des modèles d'hydrogénase ont introduit ici une pyridine qui permet d'accrocher la pyridine sur le zinc Donc c'est un lien de coordination, ce n'est pas un lien covalent, ce n'est pas aussi stable qu'un lien covalent, mais néanmoins, on se retrouve avec un système qui a un solide, une poudre, qui a un photosensibilisateur et un catalyseur. Voilà. Et là aussi, à nouveau, ce système-là est une sorte de photosystème, vous lui donnez de l'ascorbate comme réducteur, et vous pouvez travailler dans l'eau, une suspension, et ça marche en lumière visible pendant un certain temps, 2 heures, et puis le système est mort. On n'explique pas très bien là-dedans pourquoi il s'arrête. Bon, c'est assez souvent le cas dans des systèmes photochimiques, mais voyez. Donc là, on a construit un photosystème qui réduit des protons en hydrogène. Avant-dernière étape, fixer un photosensibilisateur et maintenant encapsuler un catalyseur. Alors, comme je l'ai dit, la synthèse est plus simple d'une certaine façon. Il n'y a pas besoin de fonctionnaliser le solide, pas besoin de changer le MOF lui-même, parce que vous pouvez changer le MOF pour permettre l'accrochage. Il n'y a pas besoin de changer la molécule, le catalyseur. Il n'y a pas besoin d'utiliser des réactions de couplage solide, molécule, qui peuvent être complexes avec des conditions qui peuvent détruire le système, enfin, etc. Donc c'est à nouveau assez simple. Je l'ai dit, le catalyseur n'est pas modifié, c'est exactement le même. Et puis là aussi, il est isolé, et donc on peut avoir de la stabilisation par rapport à un catalyseur qui est soluble en solution. Bon, alors évidemment, il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé, il est dans un port. Il n'est pas fixé, donc il pourrait être relargué, perdu en solution avec le temps. La façon de préparer ces choses-là, en gros, 2 extrêmes. Dans la littérature, vous voyez ces termes-là, bottle around chip, c'est-à-dire que vous avez votre complexe et vous construisez le solide autour du complexe. Alors ça, comme la construction du solide demande quand même des solvants et des températures particulières, ceci peut être critique et détruire et ne pas être adapté au complexe que vous utilisez. Donc il faut des catalyseurs robustes donc, pour supporter les conditions de synthèse. Et puis vous avez une autre stratégie, ship in a bottle. Vous construisez votre MOF et vous construisez votre complexe, vous allez voir quelques exemples. Il n'y a pas énormément d'exemples de tout ça, mais vous construisez votre complexe à l'intérieur du MOF. Alors évidemment, comme il y a un problème d'adéquation entre le MOF et le complexe, d'une certaine façon, on n'a pas une très très grande liberté, c'est ce que je mets ici, versatilité limitée, il y a un hôte, il y a un invité, host, guest, et tout ça doit être très spécifique. Vous imaginez bien que si le catalyseur est trop gros, il ne rentrera pas dans les pores, s'il est trop petit, il va partir. Si vous avez des fonctions sur les bras du MOF qui ne sont pas bonnes pour interagir avec, s'il y a de la répulsion avec le complexe, ça ne va pas aller, inversement. Bon, enfin, donc on est quand même assez limité. Mais néanmoins, il y a des exemples dont je voudrais vous parler. Peut-être un des tout premiers exemples, à ma connaissance, c'est celui-ci. Donc c'est un MOF à base de chrome. Ici, le métal qui est indiqué, c'est chaque fois le nœud inorganique qui est dans le MOF. Et donc, ce MOF a été synthétisé et ensuite, il est traité par un sel de manganèse, un ligand, donc il n'y a pas de complexe là, préparé, et vous le traitez par un oxydant, et ça conduit à la synthèse d'un binucléaire de manganèse mu dioxo, il y a deux ponts oxo, et chacun a un ligand terpyridine. Ça, c'est un complexe assez connu C'est un des tout premiers complexes qui a été synthétisé comme modèle du cluster de manganèse et de calcium du photosystème 2. Il y a eu beaucoup de débats sur ce complexe, parce que très tôt, il a été montré comme étant capable d'oxyder l'eau en oxygène, mais il y a eu beaucoup de questions sur la réalité de cela. Mais néanmoins, si vous voulez, ce complexe peut être préparé en solution. Il est connu pour faire de l'oxydation de l'eau, mais il n'est pas très stable, il se dégrade, et en effet, comme je l'ai dit, c'est probablement parce qu'on a des entités à très haut degré d'oxydation à un moment donné qui attaquent une deuxième molécule de catalyseur par des réactions bimoléculaires, et ça se dégrade, et on perd l'activité. Et là, d'avoir ce complexe à l'intérieur d'une cage du MOF, ce qui est fait dans ce travail-là, on peut espérer qu'il y a plus de stabilité parce qu'il est isolé à l'intérieur et qu'il maintienne son activité de catalyse. Mais vous voyez, il a été synthétisé à l'intérieur du pore. Et de fait, dans un premier travail en 2013, il a été étudié dans des conditions d'un oxydant, ici appelé oxone, un donneur d'atomes d'oxygène. C'est un système qui est très stable, vous voyez, pendant des heures, c'est lui là, et il est bien meilleur que tous les blancs et tous les intermédiaires. Le MOF lui-même n'est pas actif. Et le complexe lui-même, vous voyez, il est là, il est plus actif, mais il est totalement instable, et il s'arrête très tôt, et celui-là maintient son activité jusqu'à 6 heures, donc c'est vraiment un résultat important. Après ce travail en 2013, ce papier a été critiqué aussi, comme chaque fois qu'on parle de ce complexe, parce que, vous voyez, jusqu'à présent, on arrivait à faire de l'oxydation de l'eau avec ce catalyseur qu'avec des oxydants qui contiennent des atomes d'oxygène. Et donc, il y avait des ambiguïtés sur la source des atomes d'oxygène dans l'oxygène moléculaire. Est-ce que c'était vraiment que de l'eau ou est-ce que ça venait de ça? Et les manips de marquage n'étaient pas évidentes. Mais grâce à... et dans l'étape suivante, et c'est publié en 2014 en Energy Environmental Science, dans cette configuration-là, pour la première fois, il y a eu de l'oxydation faite avec un sel de cérium, donc il y a plus de... donc c'est un sel oxydant, il n'y a plus de source d'oxygène autre que l'eau, et de fait, le système marche, il produit de l'oxygène à partir de l'eau, c'est très stable, et ça tourne relativement bien, et enfin là, on voit rien, mais vous voyez simplement des catalyseurs moléculaires à base de fer ou de manganèse divers dans différentes configurations. Et quand vous voyez la durée de vie ici de cette entité-là, c'est colossal par rapport à tous les autres. Donc là, on a un bel exemple de stabilisation massive d'un catalyseur par hétérogénéisation. Donc là, je vais parler d'un travail qui est dans la même veine d'encapsulation. Donc, c'est un travail qui a été mené dans mon labo par Caroline et Greg. Et en collaboration donc avec Anne Dolbeck, qui est vraiment une des spécialistes de ce type de matériaux, de molécules, pardon. Ce n'est pas un matériau, c'est une molécule, c'est un cluster. Donc à l'Université de Versailles. Alors j'ai déjà parlé de cette entité-là. C'est un complexe soluble qui est un polyoxométhalate. Donc on parle de pomme, et je vais parler de pomme pour simplifier, que j'ai évoqué longuement quand j'ai discuté du problème de la transformation possible de catalyseurs moléculaires en solides. Et comme les oxydes de cobalt sont connus pour être de très très bons catalyseurs pour l'oxydation de l'eau, quand Craig Hill a montré que ce POM avec un cluster de cobalt, il y a 4 atomes de cobalt ici qui sont accrochés par des polyoxométhalates, et ça avait été publié dans Science, c'était un très très bon catalyseur pour l'oxydation de l'eau. Craig Hill a été là aussi attaqué en disant c'est pas possible, ce cobalt se transforme en particules d'oxyde de cobalt. Bon, et j'ai rappelé à quel point dans ce papier de Science de Hill il y avait eu une accumulation de preuves pour montrer que non, c'était bien le POM qui était actif. Donc ici on a pris pour faire de l'oxydation de l'eau ce POM. Est-ce qu'on réussit à faire, donc Grégoire et Anne, c'est de combiner ce POM avec un MOF choisi pour contenir une entité photosensibilisatrice. Ici, c'est une porphyrine. Donc vous voyez, ça a été publié récemment. Et d'introduire le polyoxométhalate. Par simple imprégnation, donc le polyoxométhalate peut rentrer, d'ailleurs vous voyez à peu près la taille 15 angstrom, ici vous avez différentes cages, il y a des petites cages, le POM n'a pas accès, et puis des grandes cages. Mais par simple imprégnation, le POM peut rentrer dans une de ces cages, et par chance d'une certaine façon, parce que vous voyez, il est petit par rapport à la cage, par chance. Oui, d'une certaine façon, par chance, parce qu'en rentrant dans la cage, il établit de nouvelles interactions avec les murs de ces cages qui le maintient à l'intérieur de sorte qu'il ne ressort plus. Et donc là, vous voyez la facilité de synthèse. On construit un MOF qui est connu, bon, et puis on trempe le MOF dans une solution de ce complexe. Et là aussi, travail complet de caractérisation, je ne rentre pas dans le détail, la cristallinité du MOF est conservée, le POM est intact. Bon, ici, il y a quelque chose d'intéressant, Greg l'avait montré donc à la réunion de la semaine dernière qui précédait le colloque. Vous voyez que quand on fait de l'imagerie élémentaire, le zirconium, on le trouve partout sur les cristaux, donc c'est le MOF. Par contre, le tungstène, qui est une marque du POM, ou le cobalt, également une marque du POM, se retrouve plutôt aux extrémités. Sans doute, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais ça exprime sûrement le fait que vous commencez à faire rentrer des pommes, et puis plus on en rentre là, et plus ça empêche de rentrer, donc plus ça empêche d'aller accéder ici, et donc on accumule les pommes à l'intérieur. Voilà. Caroline, en particulier, a fait tout un tas de calculs pour montrer l'ensemble des interactions, je ne rentre pas dans le détail, mais l'ensemble des interactions qu'il y a entre le POM et le cluster de zirconium, à travers toute une série de liaisons hydrogène avec des molécules d'eau, avec des atomes d'oxygène. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est par cette interaction-là, le catalyseur se retrouve très proche des molécules de porphyrine, qui sont les photosensibilisateurs, laissant présumer des réactivités mutuelles intéressantes, des transferts d'électrons du POM qui va oxyder l'eau vers le photosensibilisateur pour combler les trous. Voilà, tout ça est magnifiquement bien organisé, pas obligatoirement anticipé, mais à la fin c'est comme ça. Et donc, c'est un système qui marche en lumière visible, en lumière solaire. Donc le mécanisme est le suivant, le POM catalyse l'oxydation de l'eau, les électrons venant de l'eau sont envoyés dans le MOF excité, et les électrons vont vers l'accepteur d'électrons, ici cet oxydant. Et donc vous avez un système qui est stable, enfin donc qui est très efficace, qui est stable, et s'il s'arrête, c'est parce que l'oxydant a été consommé, et si on en rajoute, le système repart. C'est le premier système, c'est le premier photosystème qui fait de l'oxydation de l'eau, et comme vous pouvez le voir ici, uniquement avec des métaux non nobles, et qui est hétérogène, et stable, et actif, et donc on est très content de ça. Voilà. Alors ça, c'est une façon de conclure sur ce travail en disant on est dans cette vision de faire un photosystème, c'est-à-dire d'intégrer dans une entité unique tous les partenaires. Voilà, on arrive à faire plus simple, bon, pas aussi efficace, mais plus simple que la nature. Ça, c'est le photosystème. Quantité énorme de photosensibilisateurs divers, de protéines, etc. Ici, c'est le photosystème synthétique. L'oxydation de l'eau, ici, les photosensibilisateurs, c'est tout ce qui est vert et bleu. J'ai déjà montré plein de fois ce type de figure. Le catalyseur où se fait l'oxydation est là. C'est un cluster de manganèse en violet et de calcium. C'est là que se fait l'oxydation de l'eau. Et ensuite, les électrons vont combler les trous qu'il y a dans les photosensibilisateurs jusqu'à ces quinones. Et ici, eh bien, c'est la même chose. Vous voyez, ici, vous avez un cluster à 4 manganèse. Ici, vous avez un cluster à 4 cobalt. Craig Hill, qui a travaillé sur ce complexe, qui a été le premier à travailler sur ce complexe pour faire l'oxydation de l'eau, live, est évidemment vendu comme un système bio-inspiré. Voilà, avec ce cluster de 4 ions métalliques non nobles, comme ici, et les photosensibilisateurs ici sont les porphyrines, qui sont mimes de ces phéophytines ou de ces chlorophylles qu'il y a dans le photosystème 2. Bon, il y a eu d'autres exemples, bottle around chip. Je vous ai montré l'oxydation de l'eau, mais là, vous avez un exemple de réduction des protons. Donc, construction de cette entité où vous avez... Mais ici, c'est à nouveau du ruthénium trisbipi, vous voyez, et un pomme qui est connu pour faire de la réduction des protons. Donc là, c'est bottle around chip parce que le pomme supporte les conditions, par exemple 100 degrés ici, et donc on peut construire le MOF autour du pomme. Voilà, et donc vous vous retrouvez avec un pomme dans une cage à proximité d'un photosensibilisateur à base de ruthénium. Et voilà, le système, là aussi, est étudié pour faire de la réduction des protons. Récemment aussi, dans le domaine de la réduction des protons, la combinaison de soit des photosensibilisateurs à base d'iridium, soit à base de ruthénium, et ici c'est un pomme à base de nickel qui est connu pour faire de la réduction des protons. Donc c'est la même démarche. Ici, c'est aussi bottle around chip parce que ces entités-là supportent. Donc vous voyez ici, contrairement à ce qu'on a fait dans le laboratoire, ce n'est pas de l'imprégnation. C'est de la construction du MOF en même temps que l'incorporation du pomme. Et là aussi, voilà, des systèmes qui marchent très bien. Ça ne marche pas avec le ruthénium, ça marche avec l'iridium. Ça se joue à très peu. n'y a pas d'activité avec le photosensibilisateur ruthénium, et ce qui est expliqué dans cet article, c'est que c'est lié, c'est pour des raisons thermodynamiques. Le pomme ici travaille à moins 0,65 volts, le ruthénium est à moins 6, l'iridium est à moins 0,7. Donc ça marche ici avec le MOF qui est construit avec le photosensibilisateur à base de ruthénium. Et là, c'est assez impressionnant. Alors, vous voyez, zéro pour le ruthénium, mais vous pouvez faire plusieurs milliers de cycles catalytiques avec un système qui est stable, qui est bien meilleur que le système homogène, et avec un mécanisme classique. Voilà. Donc, plusieurs tentatives. Alors, maintenant, je vais donner quelques exemples pour terminer de Ship in a Bottle, c'est assez intéressant. C'est pas que de l'imprégnation, c'est une étape d'imprégnation et une étape de transformation. C'est un peu d'ailleurs comme le système de manganèse. Alors, on est toujours dans la réduction des protons en électrons, et ça aussi, c'est un travail qui ne développe pas des nouveaux catalyseurs pour la réduction des protons, mais qui se pose la question d'hétérogénéiser des catalyseurs connus. Et ici, par exemple, dans ce travail, vous voyez, de 2015, c'est des gens qui prennent le complexe diimine-dioxime de cobalt qu'on avait développé vous voyez, en 2009 avec Vincent Artero à Grenoble. C'est un des tout meilleurs catalyseurs moléculaires pour la réduction des protons. Et vous voyez qu'ils choisissent donc un 1125 avec des clusters à base de titane, avec un lien organique aminotéréphtalique. Vous voyez, benzène, NH2, et puis deux carboxylates ici pour fixer, pour lier les deux clusters. Et donc, en fait, si vous prenez le complexe lui-même, la taille du complexe est un peu trop grande pour entrer dans le pore. Et donc, quand ils ont commencé à traiter le complexe, finalement faire un peu comme on a fait avec le pomme, traiter le complexe, imprégner le pomme avec ce complexe, eh bien, ça ne marche pas, ça ne rentre pas. Et en fait, c'est cohérent avec le fait que, vous voyez, ici, la taille, c'est à peu près, c'est plus de 6 angstroms. Et la fenêtre, alors la cage ici est grande, mais la fenêtre pour rentrer à l'intérieur est petite, et donc ça ne peut pas rentrer. Et donc là, l'idée, c'est de rentrer le ligand. Donc ils ont rentré la diimine dioxime, qui elle est évidemment plus flexible, et qui a une taille possible, des conformations qui sont de taille qui permettent de traverser les fenêtres et de s'installer à l'intérieur de la cage. Ensuite, deuxième étape, vous traitez par un sel de cobalt et ça marche, ça fait le complexe à l'intérieur et vous avez donc un catalyseur qui est construit, et ce catalyseur est un système qui, là aussi, qui marche très bien. Le MOF lui-même ne marche pas. Le complexe avec cobalt, diimine dioxime, ça marche. Évidemment, vous pouvez voyez, mettre des quantités de catalyseurs plus ou moins grandes, sous stoichiométrique, ou remplir toutes les cages. Et évidemment, vous avez des activités qui diffèrent. C'est un système qui est très, très stable. Voyez. Faites un premier run, vous récupérez le solide, vous remettez dans un deuxième run, et même vitesse, même activité dans le même temps, et vous recommencez ça x fois, et ça marche. Alors, le problème dans ce travail-là, c'est qu'on ne comprend pas très bien le mécanisme, il y a plusieurs choses compliquées. Le catalyseur est à l'intérieur, mais... j'ai oublié de dire, j'aurais dû le dire, le photosensibilisateur, il est là. Vous vous souvenez que lorsqu'on introduit une fonction amine sur l'acide téréphtalique, je l'ai déjà dit, ça introduit un déplacement de la bande UV vers le visible, et donc on a de l'absorption visible à cause du groupement amino. Donc ici, on a un système où vous avez le catalyseur à l'intérieur et le photosensibilisateur ici. Et donc, vous avez excitation du photosensibilisateur, et la question ici, c'est qu'on ne sait pas très bien si les électrons vont directement au catalyseur, ou bien, comme ça a été montré dans d'autres cas, ça passe par le cluster de zirconium qui lui-même envoie ses électrons au catalyseur pour donner de la réduction des protons en hydrogène. Donc il y a un certain nombre d'ambiguïtés là-dessus. Mais disons que c'est un système qui est quand même assez intéressant, qui marche et dont la synthèse est relativement simple. Et on a hétérogénéisé un catalyseur, un des catalyseurs les plus intéressants du point de vue de la réduction des protons. Un autre exemple, et c'est la même démarche, vous voyez, ACS Catalysis en 2016. Donc c'est également un 1125 amino, vous reconnaissez les amines. Eh bien là, pareil, le complexe lui-même, qui est rigidifié par le fait que le ligand est fixé à l'atome de cobalt, ne peut pas rentrer, et donc là, c'est la même démarche. On rentre le ligand, qui lui peut accéder à différentes conformations et rentrer. Et ensuite, on traite simplement par un sel de cobalt et on fait le complexe. Voilà. Et en faisant ça, même chose, avec là aussi un certain nombre d'ambiguïtés sur les mécanismes. Excitation du photosensibilisateur, passage des électrons par le cluster et ensuite retour sur le catalyseur à l'intérieur, ou, comme c'est indiqué ici, directement, les électrons vont sur le catalyseur. Bon, c'est pas tout à fait clair comment ça peut fonctionner, mais en tout cas, je ne rentre pas dans le détail de toutes ces informations, mais là aussi, un système vraiment efficace et super stable. Vous voyez, dans le même temps, on arrive aux mêmes activités après plusieurs cycles et avec les mêmes vitesses. Donc le catalyseur est vraiment dans des conditions d'exposition à la lumière et de protons très stables. Ce n'est pas le cas du catalyseur homogène. Voilà, je finis sur le cas extrême. Le cas extrême qui n'a jamais été construit jusqu'à 2018. Si l'article est accepté, c'est le fait d'introduire dans la cavité les deux. Donc là aussi, l'avantage, aucune modification, alors de rien du tout. Et ça, c'est un travail qu'on a récemment développé au laboratoire, donc pendant la thèse de Chia, en collaboration avec Caroline à nouveau. Et donc en collaboration avec David Farusing et Jérôme Canivet à Lyon. Et donc c'est un travail qu'on vient de soumettre. C'était vraiment l'idée, est-ce qu'on peut encapsuler les deux, le photosensibilisateur et le catalyseur. Et donc on a pris ce MOF 1101, aluminium, les clusters sont à base d'aluminium. Alors, vous voyez ici, il y a un groupement NH2. Alors, comme vous allez le voir, c'est en dépit du fait que, comme je l'ai dit plein de fois, ce groupement-là a des propriétés photosensibilisatrices, ce n'est pas lui qui va jouer le rôle de photosensibilisateur parce qu'il absorbe peu dans le visible, mais il absorbe, comme je l'ai dit. Et par ailleurs, on a. on a choisi d'incorporer des photosensibilisateurs qui absorbent beaucoup plus, donc c'est eux qui vont prendre toute la lumière. La raison pour laquelle on a pris le NH2, c'est parce que ce MOF-là, en tout cas, nos collègues de Lyon sont incapables de le faire sans le NH2, donc il y a du NH2 qui est là-dedans, mais pas parce qu'on voulait ça comme photosensibilisateur. Et donc, on a testé toute une série de catalyseurs. Alors, on a choisi cette classe de catalyseurs à base de rhodium, comme preuve du concept, à base de rhodium BP, à nouveau, bien sûr, BP, parce que vous imaginez bien qu'en mettant des carboxylates, on va... Non, enfin là, excusez-moi, c'est pas vrai, puisque l'idée n'est pas de l'introduire dans les murs de façon covalente. Donc, mais celui-là, on avait montré, et j'ai déjà parlé de ça précédemment, on avait montré que c'est un bon catalyseur pour la photoréduction du CO2. Donc, on a travaillé sur celui-là, et puis sur différentes versions de complexes de rhodium. Et puis, de l'autre côté, on a testé toute une série, en voilà quelques-uns, toute une série de complexes et de colorants organiques pour leur incorporation dans les cages du MOF. Ici, en haut, vous avez les certains colorants organiques qu'on a essayés. Ça, c'est certains colorants inorganiques. À nouveau, vous reconnaissez le Tris-BP, etc. Vous voyez ici le BP dicarboxylate, mais vous voyez qu'ici, il est positionné, le carboxylate, en ortho de l'azote et il ne peut pas conduire à un remplacement des murs organiques pour deux raisons. Parce que les carboxylates ne sont pas bien orientés et parce que ici vous n'avez qu'un noyau aromatique, alors là, vous en avez deux. Donc, s'il se passe quelque chose, ce n'est pas parce que ces murs, ces ligands organiques ont été remplacés par ces entités-là. Pareil ici. Et en faisant ça, il y a tout un tas de molécules qui rentraient mais qui ressortaient, d'autres qui ne rentraient pas. Et puis on s'est aperçu qu'il fallait, c'était beaucoup mieux avec le complexe de ruthénium en position 4,4', donc en para de l'azote, et donc pas celui, ici vous voyez en méta, qui permet de, comme dans plein d'exemples, de faire des MOF avec des ligands organométalliques. Et c'était pareil pour le complexe de rhodium, où ces groupements carboxylates étaient optimisaient le système, c'est-à-dire permettaient de les faire rentrer et de les empêcher de sortir. Et Caroline, à travers des calculs que je suis incapable de vous décrire, d'abord, on a pu montrer qu'on pouvait mettre par cage deux photosensibilisateurs et un catalyseur. Et deuxièmement, en travaillant sur le complexe de rhodium, que vous voyez ici, et à travers des calculs DFT, là aussi après caractérisation complète du nouveau matériau, on a pu comprendre pourquoi, par exemple, ce complexe de rhodium s'installait bien dans cette cage, à travers des interactions, des liaisons hydrogènes. Ici, vous voyez, des liaisons hydrogènes entre justement l'amine et de carboxylate, ou le carboxylate avec des molécules d'eau. Et puis par ailleurs, ça doit jouer un rôle assez important, on se trouve avec une interaction pi-pi entre le noyau aromatique du ligand du MOF et le... Le noyau aromatique ici, cyclopentadiényl. Donc tout ça confère une stabilité. Et donc là, on a tout, pas fixé de façon covalente. Cette entité-là est capable de transformer absolument sélectivement le CO2 en acide formique. Et si vous regardez uniquement ces deux lignes, lorsque vous avez le complexe lui-même de rhodium et le complexe de ruthénium en solution, hors du MOF, c'est un système, mais ça on le savait, c'est-à-dire en introduisant des acides carboxyliques, on change complètement la sélectivité, c'est-à-dire le complexe devient pas très bon pour faire de la réduction du CO2, mais très bon pour faire de la réduction des protons. Vous regardez ici le ratio, vous voyez, c'est un système qui produit essentiellement de l'hydrogène et un peu d'acide formique. Eh bien, une fois qu'il est à l'intérieur, ici, dans cette configuration-là, vous n'avez plus du tout d'hydrogène, donc, et vous ne faites que de l'acide formique. Donc, un changement de sélectivité colossal. On ne comprend pas très bien pourquoi la réduction des protons est inhibée. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à regarder. Mais tout d'un coup, on a un système qui est très, très sélectif, meilleur, d'ailleurs, en réduction de l'acide formique que le complexe, en réduction du CO2 en acide formique que le complexe en solution. Donc, l'incorporation très simple, l'encapsulation des deux entités photosensibilisatrices et catalyseurs a deux effets. Un premier effet qui est d'augmenter la réactivité vis-à-vis du CO2 et d'inhiber complètement la réduction des protons. Malheureusement, même si on pouvait s'y attendre, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit différent à l'intérieur du solide, même si on aurait pu espérer, malheureusement c'est ça, c'est-à-dire que il perd de l'activité après plusieurs cycles. Et au bout du cinquième cycle, il est pratiquement mort. Bon, cela dit, vous voyez, vous le faites tourner ici 25 heures. Enfin, je ne me souviens plus le total, mais c'est quelque chose d'assez considérable. Les indications qu'on a, c'est que, comme d'habitude, c'est le photosensibilisateur qui se dégrade. Et l'étape suivante, ça serait un peu comme le photosystème 2. Il faudrait qu'on soit capable de réparer ce système. Donc, l'étape suivante, c'est la réparation. Il faudrait qu'on ait des systèmes réparables. Et ça pourrait être très simple, puisque on imprègne les complexes, ça pourrait être très simple en se disant, il suffit de réimprégner avec un nouveau complexe de ruthénium. Sauf que ce qui s'est dégradé à l'intérieur ne sort pas, occupe l'espace, et pour le moment, on ne peut pas le remplacer. Donc, évidemment, ça a été fait. Chia a tenté de retraiter ici avec à nouveau le photosensibilisateur, et ça ne fait rien parce que ça ne sort pas, donc c'est plein, et on ne peut pas le remplacer. Voilà, donc. Et d'une certaine façon, le photosystème 2, lui, se répare aussi. Enfin, je l'ai dit plusieurs fois, le photosystème 2 naturel, il se dégrade, enfin, il s'éteint toutes les 30 minutes, il est remplacé. Donc il y a un système de réparation permanent. Pourquoi ? Parce qu'on met plein d'énergie là-dedans. Là, c'est pareil, hein, énormément d'énergie. L'idéal serait un jour d'avoir des photosystèmes synthétiques qui soient réparables. Allez, encore 5 minutes. J'ai parlé de MOF. Donc c'est des entités tridimensionnelles, des solides. Mais il y a aussi d'autres types de polymères de coordination, notamment monodimensionnels ou bidimensionnels, qui sont basés sur la même stratégie que la synthèse des polymères de coordination à trois dimensions que j'ai évoqué tout au long de ces deux derniers cours, et qui sont aussi développés pour tout un tas d'applications, et en particulier la catalyse. Et ceux-là peuvent être aussi utilisés pour faire de la l'hétérogénéisation de complexes moléculaires. Voilà. Alors, ça aussi, c'est un travail du laboratoire pour vous montrer comment on peut faire. Et c'est un travail qui a été fait en collaboration avec un collègue égyptien qui fait des très très belles choses avec des moyens limités, très limités d'ailleurs. Il m'a montré des photos de son labo, il faut y aller, hein. Mais un type extraordinaire. Et donc vous reconnaissez les fameux complexes de cobalt, des cobaloxymes, à nouveau cette grande famille de catalyseurs, à nouveau qu'on avait développé avec Vincent il y a maintenant pas mal de temps. Vincent Artero à Grenoble. Et donc, ici, une façon d'hétérogénéiser un complexe moléculaire comme ça, c'est de le fixer dans un polymère de coordination. Et ici, la stratégie qui a été utilisée, c'est avec ces composés aromatiques bromés et ces cycles fonctionnalisés avec des alcynes, et en utilisant un couplage de type Sonogashira avec des catalyseurs à base de palladium, des choses assez connues, vous faites ça, vous créez un lien entre chacune de ces alcynes et vous substituez ici le brome, et donc vous avez un matériau, un polymère de coordination qui contient des entités cobaloxymes partout. Et tout ça est bien, bien homogénéisé. Et ça, c'est le matériau qu'on obtient. Et c'est un système intéressant, alors, qui a été étudié en réduction des protons. Ces cobaloxymes sont connus pour faire de la réduction des protons, soit en milieu acétonitrile en utilisant le TOA, triéthanolamine, c'est une chose classique, vous avez vu mille fois, qui est ici, donc c'est un système plus lent mais très stable, ou dans l'eau, et ça aussi c'est très intéressant, hein, c'est mieux dans l'eau que dans l'acétonitrile TOA, mais à nouveau c'est l'intérêt d'avoir un système. La cobaloxyme, hein, je l'ai déjà évoqué, hein, quand on la met dans l'eau, elle, ça donne des particules de cobalt, et j'ai déjà évoqué cette histoire-là longuement dans le chapitre où je parlais des catalyseurs homogènes qui en réalité étaient hétérogènes. C'est le cas des cobaloxymes. Dans l'eau, tous ceux qui disent que la cobaloxyme fait le boulot dans l'eau ont tort, c'est que des particules de cobalt. Ici, on peut le mettre dans l'eau parce qu'on a nos cobaloxymes, et on a montré que ce n'étaient pas des particules qui sont stabilisées au sein d'un solide. Et c'est stable aussi dans ces conditions, et c'est beaucoup plus rapide dans ces conditions-là. Et puis, la chose très intéressante, c'est que c'est parfaitement stable. Vous voyez, on fait tourner 16 heures, 5 fois, donc 90 heures, et on a les mêmes activités. Donc là, c'est un système qui est assez intéressant et qui est construit de façon assez simple du point de vue de la synthèse. Et ça, je crois que c'est le record du monde. Ça a été publié en Angewandte 2016. C'est un polymère de... C'est pas très clair comment ça fonctionne, et je termine là-dessus. C'est un polymère de coordination avec un ligand, ici, vous voyez, qui fournit des atomes d'azote et d'oxygène pour fixer du cuivre. Ici, vous avez une partie qui est rhodamine. Alors, la rhodamine, c'est un photosensibilisateur. Mais ici, dans ce travail, c'est pas sûr que la rhodamine serve comme photosensibilisateur. D'ailleurs, pour faire leur boulot, ils rajoutent un photosensibilisateur, vous allez voir. Mais cette rhodamine a comme effet de faire des interactions pi-pi entre deux molécules de rhodamine et d'assurer une structure un peu particulière au-delà de la chaîne, hein, donc le polymère a une dimension qui est assurée par cette fonction carboxylate. Si je peux... Oui, vous voyez, si on prend voyez le ligand, là, il est là, et l'atome de cuivre est accroché par le carboxylate d'une deuxième molécule, et ainsi de suite. Donc ça vous fait votre polymère à une dimension. Et puis, en plus, la rhodamine assure ces interactions entre plusieurs chaînes. Donc, vous avez une chaîne et plus une chaîne, et ces chaînes sont en interaction grâce à ce groupement-là. Mais néanmoins, il faut savoir que ça a des propriétés sensibilisatrices, sauf que en interagissant avec une autre molécule de rhodamine, elle perd probablement ses propriétés photosensibilisatrices, qui explique qu'il faut un sensibilisateur. Mais néanmoins, dans des conditions et je ne vais pas rentrer dans le détail, dans des conditions d'un solvant alcool haut, avec un donneur d'électrons et avec ce photosensibilisateur, alors c'est un dye organique, donc ce n'est pas du ruthénium trisbipi, c'est intéressant, de l'éosine, eh bien, ici, on a un système qui est très efficace, ici, en termes de quantité d'H2 qui est produit, c'est, à ma connaissance, ce qu'il y a de plus efficace. Et d'ailleurs, si on met ça dans le tableau, vous voyez rien, mais en termes de MOF photocatalytique pour la réduction des protons, cette entité-là, vous voyez... en termes de quantité d'hydrogène, ici en micromol par gramme et par heure, 7880, et c'est très supérieur à tout ce qui est rapporté dans la littérature de systèmes à base de platine, de fer. Ça, c'est le modèle d'hydrogénase, de fer, des ruthéniums, etc. Cadmium, cobalt, le cobalt TPA dont j'ai parlé, enfin, etc. Donc, c'est le meilleur système. Voilà, je m'arrête là. J'ai essayé d'être assez exhaustif et de vous montrer que ces matériaux, ces MOF, qui sont en pleine explosion, qui font partie maintenant en catalyse, après avoir été très utilisés pour la fixation des gaz dans les cages, pour le transport de molécules, de la vectorisation, aujourd'hui ils sont de plus en plus développés en catalyse. Sont des matériaux moléculaires très intéressants, vous voyez tout ce qu'on peut en faire. Et évidemment, je ne me suis concentré que à nouveau concentré sur l'activation de petites molécules, donc je n'ai donné des exemples que pour la réduction du CO2, l'oxydation de l'eau, la réduction des protons, etc. Mais il y a d'autres applications en synthèse organique. Voilà. Et je crois que voilà, j'ai fait vraiment le tour de ces systèmes photosynthétiques. Et puis je terminerai donc la semaine prochaine, parce que malgré tout, à la fin, tous ces matériaux-là, je l'ai dit une fois, ils ne deviendront des matériaux du futur que si on peut les installer dans les fameux dispositifs électrochimiques dont j'ai parlé, que ce soit des électrolyseurs, des photoélectrolyseurs, des piles à combustible, etc. Donc il faut mettre ces solides sur des électrodes et les rendre actifs sur les électrodes. Or, ces MOF qui ouvrent des tas d'espoir dans la communauté, eh bien, ils ont un problème avec leur conductivité. Donc la prochaine fois, je montrerai comment on peut en faire des électrocatalyseurs. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez une ou deux questions, je suis prêt à y répondre. Merci.